L'épluche livre.
Alors vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire
Pas grand chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Oui, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strates comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches, comme ça.
Lui, ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange. Des cornichons, de la moutarde.
Bien-être, développement personnel, parenting, feel good. Autant de thématiques éditoriales qui viennent éclairer les étagères des librairies depuis les années 2010. Éclairées par leur couverture au ton clair, bleu ciel, rose pâle, coquille d'œuf. Couverture que les services marketing des grandes maisons de ce secteur éditorial ont jugé bon d'agrémenter d'éléments visuels rassurants, réconfortants, propres à la rêverie. Qui, de son parapluie multicolore, à un sachet de pop-corn en passant par de jolies montagnes au style naïf et libérateur. Je vous le demande, qui fera le plus de ventes ?
Il était une fois une jambe de bois qui cherchait un amateur. Elle se dit, ma foi, si personne ne veut de moi, je me fous une balle en plein cœur. Et voilà que soudain, elle entend au loin une sonnerie de clairon. Elle se dit, parfait, c'est le moment ou jamais de me trouver une situation. Arrivée sur le champ de bataille, au plus fort de la mitraille, elle croise un boulet.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, vous écoutez L'Épluche Libre. Alors c'est peut-être le moment pour cette jambe de bois de lire un roman de Laurent Lagarde, parce que... peut-être pas aller jusqu'à se tirer une balle, surtout pas ce midi. On est plutôt de bonne humeur et en bonne compagnie. Monsieur Lagarde, bonjour.
Bonjour.
Merci de vous prêter au jeu de la radio.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Avec plaisir. Vous signez donc 3 romans aux éditions Erol, que je me permets de rappeler par ordre chronologique de parution. Vous me dites si je me trompe. Troisième jeunesse, Les 5 sur la photo, Le passager du New York Express.
Oui, alors sauf que Troisième jeunesse, en fait, est mon premier roman qui n'était pas chez Erol, qui était aux Nouveaux Auteurs.
Ah, voilà.
Et qui est ensuite sorti au format poche chez Pocket.
Oui.
Voilà. Et ce qui m'a peut-être permis ensuite, d'ailleurs, de signer chez Erol.
D'être repéré.
Voilà.
C'est ça. Par un agent de star.
Non, non, pas du tout. En fait, il se trouve que mon premier roman, justement, je l'avais envoyé à Erol comme à d'autres éditeurs. Et j'avais eu, comme beaucoup d'auteurs, des réponses type pour me dire que c'était super, mais qu'ils ne le prenaient pas. Quoi. Mmh. Et il n'y a que Erol, l'éditrice Erol, qui m'avait répondu par mail avec un long mail où on voyait bien qu'elle l'avait lu, donc personnalisé, où elle me disait ce qui allait bien, ce qui n'allait pas. Et donc, j'ai pris en compte ses remarques justement pour le refaire, enfin, ou pour l'ajuster. Donc, je pense que c'est ça qui m'a permis donc, ensuite d'être édité par un autre éditeur. Et quand j'ai fait mon deuxième manuscrit, j'ai envoyé le premier chapitre donc, vers cette éditrice. Je lui ai dit, donc je l'ai encore remercié pour ses premiers conseils. Je lui ai dit que ça m'avait bien aidé. Et donc, je lui ai envoyé le premier chapitre, le pitch. Et je lui ai dit, écoutez, si ça vous intéresse, je peux vous envoyer la suite. Et dès le lendemain, en fait, elle m'a répondu pour me dire qu'elle voulait la suite. Donc, je lui ai envoyé la suite des 5 sur la photo. Et elle l'a pris.
Et bon, voilà. Coup. Super, bravo, félicitations. Est-ce que vous pourriez nous présenter ces romans, s'il vous plaît ?
Oui, alors, Troisième jeunesse, donc, c'est l'histoire d'Alexandre, qui a 79 ans, qui rentre donc en maison de retraite, sauf que c'est un ours, c'est un asocial, donc ça ne se passe pas bien ni pour lui, ni pour les autres. Il pense évidemment que c'est son dernier voyage. Hein. C'est vrai que quand on rentre dans ce type d'établissement, on en ressort rarement, enfin, en tout cas pas sur ses deux pieds. Mais évidemment, comme c'est un roman, son histoire ne va surtout pas s'arrêter là. Et il va faire en fait 3 rencontres sur 3 générations différentes qui vont changer en fait son regard sur la vie. Et finalement, à partir du moment où on change son regard sur la vie, sa vie elle-même change. Voilà. Et donc, c'est une histoire de... où on s'interroge sur ce qu'on a fait de sa vie, sur est-ce qu'il est trop tard pour faire les choses que l'on voulait faire. C'est une histoire aussi de transmission aussi, entre générations, puisque donc lui a 80 ans, et puis donc dans les trois personnes qu'il rencontre, il y a une jeune femme qui a 40 ans, il y a son fils qui a 10 ans, et puis il y a une autre personne de la maison de retraite qui est une ex-prof de philo, qui a son âge et qui l'ouvre aussi un peu, enfin qui l'aide aussi un peu à s'ouvrir et à voilà. Donc du coup c'est un voilà, ça commence de manière assez noire et puis ça s'éclaire en fait de manière progressive. Il y a de la tendresse, il y a de l'émotion, il y a de l'humour, puis il y a une petite musique, une petite réflexion sur sa vie, sur ses choix, sur ce qu'on en a fait, et sur le fait qu'il n'est jamais trop tard pour suivre ses envies et pour oser être soi-même.
Effectivement, donc un premier roman, donc troisième jeunesse, sur une jeunesse inespérée,
c'est ça,
inattendue. Les cinq sur la photo.
Alors les cinq sur la photo, là j'ai changé complètement de génération, puisque les héroïnes ont 22 ans. En fait, c'est vrai que mon premier roman, en fait, j'ai trois enfants, moi. J'ai trois enfants, donc l'aîné a 26 ans, 24 ans et 20 ans. C'est vrai que mon premier roman, ils ne s'étaient pas vraiment identifiés, quoi. Ce n'était pas leur truc, quand même, hein. Enfin, sauf par passage. Et donc, j'ai eu envie d'écrire un roman pour eux et qui les représente, eux. Et j'ai eu envie de leur montrer que leur... boomer de père, en fait, était capable, voilà, d'écrire sur eux. Et donc, les héroïnes ont 22 ans. Elles ont été élevées par leur jeune oncle, parce que leur maman est décédée quand elles avaient 10 ans. Le jeune oncle, c'est un personnage un peu bohème, un peu fantasque, un peu fêtard, mais qui les a bien élevées. Donc, elles arrivent à 22 ans. Elles ont choisi les études qu'elles voulaient, tout va bien. Il y a un événement grave qui survient, qui fait qu'en fait, elles vont devoir partir à la recherche de leur papa, qu'elles n'ont jamais connu. Et pour ça, elles fouillent dans les affaires de leur maman, et elles tombent sur une photo sur laquelle il y a cinq étudiants, leur maman, une autre jeune femme et trois garçons. La photo a été prise à Rome. Elles ignoraient que leur maman avait fait ses études Erasmus à Rome. Et surtout, la photo a été prise un an avant leur naissance. Donc, il y a peut-être une piste pour que sur les trois garçons, il y a Tétin qui pourrait être... Voilà. Oui. Donc, elles partent dans une quête, dans un voyage, en fait, en France, en Bretagne, sur l'île de Sein, à Florence, en Sardaigne, et jusque dans un endroit que je ne peux pas vous révéler, où elles vont donc découvrir le secret de leur naissance. Voilà, donc là, il y a aussi une histoire de transmission quand même, de recherche des origines. Il y a une histoire d'amour aussi, de l'évasion, enfin voilà, et du mystère.
Donc, un deuxième roman sur les enfants de notre siècle.
C'est ça.
Et puis, Le passager du New York Express, qui est apparu il y a peu, il y a quelques mois.
Oui, qui est apparu même il y a quelques jours, puisqu'il est apparu le 5 février.
Ah oui, il y a quelques jours.
Voilà.
Oui, oui, non, c'est que on est pistonné quand on est libraire.
Voilà.
On peut avoir les textes un peu avant.
Et là, par contre, oui, effectivement, là, c'est plus pour mes grands-parents, puisque en fait, l'histoire commence quand une très vieille dame, qui est vraiment très vieille, qui s'appelle Augustine, en fait, présente à l'animatrice de sa maison de retraite, qui s'appelle Estelle, une lettre qu'elle a gardée précieusement, qui a été envoyée à sa mère en 1912 par un mystérieux Albert. Et elle lui dit « Écoute, voilà, je suis convaincue que cet Albert était mon vrai père, et avant de mourir, je veux connaître la vérité. » Et donc Estelle, juste avec cette lettre, donc il y a cinq lignes, il y a un prénom, une date et, et un lieu, elle va devoir donc mener l'enquête, et donc elle part sur les traces donc d'Albert, et en fait elle, qui avait jamais quitté sa Lorraine natale, elle va se trouver plongée dans les années 1910-1918, donc c'est la belle époque, donc c'est une époque folle, romanesque, de balles, de courses automobiles, de batailles, de paquebots, de naufrages, etc. Et donc voilà, ça va bouleverser sa vie, d'autant plus qu'elle est aidée dans ses recherches par Paul, qui est l'arrière-petit-fils donc, d'Augustine, et que l'histoire d'amour qui se cache derrière cette lettre va peut-être aussi leur donner quelques idées.
Un peu d'éteindre sur eux.
Voilà.
Est-ce que vous diriez que vous écrivez des romans feel-good ?
Ben, je dirais que c'est l'étiquette par défaut, parce que c'est vrai que quand on cherche des genres en littérature contemporaine, il y a le polar, il y a le thriller, mais après quand on est dans de la littérature blanche, finalement, qu'est-ce qu'il y a comme genre? Bah, il y a feel good et à part ça...
Par définition, voilà, la littérature blanche n'est pas une littérature de genre, voilà. Effectivement. Bon, on voit se développer donc, ces notions de romans qui font du bien, de romans feel good où on se sent bien, qui sont à mi-chemin entre la littérature et le développement personnel. Donc, vous vous inscrivez par défaut plutôt que par choix?
Je pense que c'est par propre goût, en fait. C'est-à-dire que moi, j'écris d'abord... c'est vrai qu'on en parlait avant, moi, en fait, j'ai un métier qui est très cartésien, qui est financier, qui est dans la banque, etc. Donc, l'écriture, pour moi, c'est d'abord quand même un moyen de m'évader, en fait. Et voilà. Et donc, d'aller dans un autre univers qui est assez léger, qui est coloré, et qui me fait du bien. Et c'est vrai qu'il y a une remarque qu'on m'a faite, c'est que dans mes romans, en fait, il n'y a pas de méchant. Donc peut-être que en ça, peut-être que c'est feel good. C'est vrai que j'ai du mal à mettre des méchants, en fait, dans mes romans. Il y en a une un peu là dans Troisième Jeunesse.
Oui. Il n'y a pas vraiment d'antagoniste. Il n'y a pas vraiment d'opposition franche ou malfaisante. Ouais. Quoi.
Et j'en parlais d'ailleurs avec une autre autrice aussi qui est aussi un peu dans des romans un peu feel good aussi. Et on lui avait fait la même remarque. Et donc, elle m'a dit, et là, pour mon nouveau roman, ça y est, j'ai un méchant et tout. J'ai dit, ah bon, mais du coup, comment t'as fait pour t'inspirer? Est-ce que tu t'es inspiré de gens de ton entourage que t'aimes pas trop ou qui sont pas très sympas?
Et donc, question.
Voilà. Et donc, elle m'a répondu non, de moi. Ah. Donc, elle s'est inspirée d'elle pour le rôle du méchant.
Pour le rôle du méchant ou de la méchante, ou de la méchante, je ne sais pas. Parce que donc, vous publiez chez Erol, et je pense qu'on pourra terminer la première partie de cette émission sur ce sujet-là, un peu de technique, un peu de métier de libraire pour nos chers auditeurs. Vous avez l'habitude avec moi, je suis un petit peu... Je mets des tunnels souvent dès qu'on parle librairie. Donc, pour replacer un peu les choses, les éditions Erol sont quand même très connues. Elles sont... Déjà, c'est une maison centenaire. Il faut savoir que, voilà, c'est quand même... une maison indépendante, une maison centenaire. C'est aussi maintenant un groupe de diffusion. Donc voilà, il y a un vrai poids. Mais elle a été créée, cette maison, au départ, pour répondre à une demande d'ouvrages techniques, d'ouvrages professionnels. Et depuis 2015, donc assez récemment au regard de l'histoire de cette maison, elle propose des romans feel good, des romans feel good à succès. D'où mon petit clin d'œil en introduction autour des ventes. C'est-à-dire que nos auditeurs, je pense que ça va vous parler. Raphaël Giordano, Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Meilleure vente du siècle en poche. Ce n'est pas rien. Mode Ankawa, Kilomètre zéro. Ça aussi, c'est un succès de librairie. Alors, pour une maison telle qu'Erol, fortement identifiée sur du technique, qui a développé le pratique, développé la fiction déjà, c'est peut-être un vrai risque. Développer cette fiction particulière, c'est encore plus engageant, il me semble, d'un point de vue professionnel. Et vous, Monsieur Lagarde, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cette prise de risque répond à un besoin des lecteurs, à un besoin de notre époque?
Oui, visiblement oui, parce que effectivement, vous avez cité les chiffres de vente qui parfois sont faramineux.
Oui.
Voilà, donc c'est que visiblement ça répond à une attente. Ça permet. Moi, ce que je vois aussi, c'est que déjà le fait qu'il y ait comme ça de très grands succès, ça permet de pouvoir entre guillemets financer d'autres auteurs comme moi qui n'ont pas ces chiffres de vente.
Pour l'instant.
Voilà.
Pour l'instant.
Voilà. Donc, je trouve ça bien que Erol aussi, justement, ne reste pas, justement, dans son territoire très confortable et très carré avec ses auteurs populaires, mais prenne des risques pour signer. Parce que, mine de rien, moi, j'ai eu 58 ans. J'ai entendu des éditeurs dire qu'ils ne prenaient plus de quinca.
Ça, je ne l'avais pas entendu encore.
Donc, Erol est capable de prendre aussi quand même ce genre de risque.
Des profils qui ne sont plus en vogue en ce moment, c'est
voilà,
ça
voilà.
C'est une drôle de réflexion de la part de ces éditeurs-là.
Donc, effectivement, ils sont capables de prendre des risques. Et puis moi, c'est vrai que, même de par mes livres, c'est vrai que quand on écrit, quand on est publié, on a son entourage proche, on a ses collègues, etc. aussi, qui l'achètent, en fait, pour voir. Et moi, j'ai pas mal de gens qui m'ont dit qu'ils étaient remis à la lecture, en fait, grâce à moi. Mmh. Alors, pas grâce à moi, enfin, oui. Là, c'était l'occasion,
si
mais...
Vous leur avez mis le pied à l'étrier.
Mais grâce à ce genre d'ouvrages qui sont finalement abordables aussi, je pense, en termes d'écriture, sans être non plus simpliste, hein, ou sans être non plus de la littérature rose, mais ce type d'ouvrage permet ensuite d'aller aussi peut-être vers d'autres ouvrages un peu plus sophistiqués.
Voilà, ou en tout cas, c'est une porte d'entrée, je pense que vous l'avez bien décrit. Nous allons écouter donc le morceau que vous avez choisi de partager avec nos auditeurs. Chères auditrices, chers auditeurs, vous écoutez Les Pluches Libres. Nous sommes en compagnie de Laurent Lagarde, qui a choisi de vous partager ce morceau de George Michael. Donc ce morceau vous tient à cœur, monsieur Lagarde ?
Oui, parce qu'en fait, c'est un morceau que déjà j'aimais beaucoup lorsque j'étais jeune. Et puis lorsque j'ai écrit Troisième Jeunesse, en fait, ce que peu de gens ont détecté en fait, dans l'écriture, c'est que ce monsieur-là qui a 80 ans, qui rentre en maison de retraite, donc a priori on pense que c'est de nos jours, donc que c'est en 2020, donc il est censé être né plutôt dans les années 40, mais en fait quand on lit bien le livre, on se rend compte que ce monsieur-là, il a des références des années 80. Mm-hmm. Et en fait c'est une projection de moi en fait, c'est-à-dire que c'était la manière dont je me projetais aussi peut-être moi à 80 ans, Et c'est vrai qu'on dit toujours que les premiers livres sont assez personnels ainsi, donc je pense que voilà, je pense que c'est lié à ça. Et donc du coup, il écoute George Michael, il écoute Souchon, il écoute Madonna, alors que dans ses maisons de retraite, on lui balance des animations avec avec Charles Trenet, avec Listinguette ou je sais pas quoi. Donc il est complètement voilà, ce qui renforce encore son dégoût d'être là, quoi. Voilà.
Il devient un peu plus bougon à chaque écoute, c'est ça ?
Ouais, tout à fait. Et puis en plus, quand j'ai écrit cette scène-là, donc où il est dans sa chambre de la maison de retraite et à la télévision, il tombe justement sur un documentaire sur George Michael. Et en fait, cette scène-là, je l'ai écrite, j'étais en vacances sur une terrasse face à la mer. Voilà. Donc en plus, ça me rappelle ce moment d'écriture. Voilà.
C'est beau, c'est une belle histoire. Merci pour ce partage.
Je vous en prie.
Donc nous sommes interrogés en première partie d'émission. Est-ce que les lecteurs aujourd'hui, du moins une partie des lecteurs, a besoin de savoir que l'histoire finira bien ? Est-ce qu'on a besoin, avant d'ouvrir le livre, déjà dans l'acte d'achat, de comprendre ou du moins d'espérer que l'histoire a quelque chose à apporter, qu'elle nous fera nous sentir bien, nous sentir heureux, peut-être ? Est-ce que c'est un besoin de notre époque ? Toutes ces questions-là, la réponse est oui, selon notre invité. Merci beaucoup pour cette réflexion commune. Maintenant, une fois que ça s'est posé, pourquoi ou pour qui écrivez-vous ?
Alors moi, j'ai commencé à écrire quand j'étais adolescent, parce qu'en fait, quand j'étais jeune, je bégayais beaucoup, donc peut-être que ça s'entend encore un peu, mais quand j'étais au collège et au lycée, et même jeune adulte, pour moi, c'était très handicapant, c'est-à-dire que c'était très frustrant, il fallait que je choisisse les mots, que je compose les phrases que je serais capable de sortir, en fait, et de prononcer, donc je parlais très peu, et donc c'était hyper frustrant. Et je me suis tourné vers l'écriture, et vers l'écriture, c'est ce qui m'a permis voilà, de trouver cet échappatoire et ce refuge où les mots coulaient, où je pouvais dire ce que je voulais avec les mots et les phrases que je choisissais, et trouver cette fluidité en fait, que je n'avais pas dans la parole. Et d'ailleurs, l'un des plus beaux compliments qu'on puisse me faire sur mon écriture, c'est quand on me dit qu'elle est fluide, en fait. Ça, c'est vraiment... voilà, c'est une belle satisfaction pour moi. Voilà. Donc, je suis venu par le bégaiement vers l'écriture. J'ai commencé, en fait, par quelques nouvelles. Puis ensuite, j'ai créé un blog d'aide pour les personnes qui bégayent, qui s'appelle Goodbye Bégaiement, que j'ai tenu durant de très longues années. Et en fait, il a eu un certain succès. Il a eu un tel succès que j'ai été invité, en fait, pour faire des conférences donc en France, en Belgique, en Suisse, au Canada même. Et c'était assez drôle parce que j'étais allé vers l'écriture pour échapper à l'oral et à la parole. Et par cette écriture, on me demandait de revenir vers l'oral et de prendre la parole dans des amphithéâtres, devant des salles entières. Un truc qui pour moi avant était inimaginable. Sauf que là, ça a été super thérapeutique parce que j'intervenais et tout le monde savait que je bégayais. Donc il y avait cette pression-là quand même qui...
C'était même une compétence demandée.
C'était presque une compétence, voilà. C'était presque une compétence. Donc j'avais en fait toute cette pression-là donc, qui était évacuée et ça m'a permis de revenir vers la prise de parole. Et puis après, donc, j'ai continué à écrire des nouvelles, j'ai participé à des concours, j'ai eu des prix et le dernier, c'était en 2019. C'était le prix de la nouvelle humoristique francophone. Et le président du jury, c'était, figurez-vous, un prix Goncourt. C'était Hervé Letellier.
Alors là aussi, au niveau de l'humour.
D'Anomalie, voilà. Oui. Et donc, qui est un grand fan et un grand maître de Loulipo. Ouais. Et donc, il y avait d'autres auteurs aussi dans ce jury. Et donc, ils ont été très encourageants, ils ont été très, très bienveillants. Et surtout, un truc qui était génial, c'était que, sincèrement, je crois que pour la première fois, j'avais l'impression d'être à ma place.
Super.
J'avais l'impression voilà, d'être là où je devais être, avec les gens desquels je me sentais proche. Et donc, ils m'ont convaincu d'aller donc vers le roman. Donc, je suis parti d'une nouvelle qui avait eu un prix, d'ailleurs, décerné par la médiathèque de Villeneuve-les-Maglones, donc tout à côté, qui s'appelait « Balade sous un érable ». Et donc, c'est devenu « Troisième jeunesse ».
C'est une histoire magnifique et porteuse de sens. J'espère que ça portera auprès de nos auditeurs. Donc, vous avez parlé donc, de l'écriture, donc le bégaiement qui vous a amené à l'écriture. Quelles sont justement ces habitudes d'écriture ? Est-ce que vous écrivez dans un endroit précis ? Comment le processus créatif se met-il en place pour vous ?
Alors, moi, j'écris tous les matins. donc avant d'aller travailler. Donc j'écris durant environ une heure, parfois une heure et quart, une heure et demie, avec un objectif d'écrire 500 mots par jour.
Ah oui, donc là on est quand même dans des chiffres, on retrouve...
Ouais, on est dans des chiffres, mais en fait 500 mots ça fait deux pages et oui. Ça m'a sauvé parce que à moins d'être un génie, si on attend l'inspiration pour écrire, on peut attendre longtemps en fait.
Mmh, voilà. C'est intéressant ça.
Voilà. Et donc, il s'est trouvé que cette routine, je l'ai mise en place justement pour mon premier roman parce que, en fait, j'avais vu que je pouvais l'envoyer à un concours qui était organisé par le magazine Femmes Actuelles. Mmh. Et en fait, au moment de le poster, je me suis rendu compte que j'avais pas le nombre de mots justement minimal en fait. Et qui manquait, genre, je sais plus, peut-être 50 pages quand même, donc c'était quand même pas mal. Et il me restait un mois.
D'accord.
et donc, du coup, j'ai mis en place cette discipline où, durant un mois, j'ai écrit 2 pages par jour. Et donc, j'ai eu mes 50 pages. Et puis, c'est resté. Et
le concours, alors ?
Et le concours, donc j'ai eu un prix. Donc j'ai eu le coup de cœur des lectrices du magazine Femmes Actuelles.
Mmh, bravo.
Et voilà. Et donc j'ai eu ce contrat d'édition, grâce à ce concours.
Tout est lié. Nous retombons lié. Sur nos pieds. Donc l'écriture pour vous, c'est une routine ?
Oui.
C'est une exigence ou c'est quelque chose qui vous fait du bien ?
C'est quelque chose qui me fait du bien principalement. C'est-à-dire que ça me fait du bien aussi dans le sens où je sais qu'il y a des écrivains qui, avant de se mettre à l'écriture, qui ont une longue réflexion mentale sur leur histoire, qui font un plan, qui ont toutes leurs scènes, qui ont la fin, etc. Et seulement quand ils ont tout ça, ils commencent à écrire. Moi, c'est quelque chose qui m'ennuierait, en fait. Et j'ai besoin d'être surpris, en fait. Même par mon écriture. Voilà. Mmh. Donc, il y a 90% des matins où je me mets devant mon clavier et sincèrement, je ne sais pas ce que je vais écrire. Hein. Mais là, il y a une magie qui opère, c'est-à-dire que vous écrivez une phrase, vous l'effacez, une autre, tac, il y a une idée qui vient, vous l'accrochez, vous la creusez, etc. Et magiquement, j'arrive à mes 2 pages. Quoi.
Donc, c'est une magie plutôt qu'un mécanisme.
C'est une magie, un plaisir et une évasion. Voilà. D'ailleurs, j'ai essayé. Parce que quand même, je me disais, ouais, c'est vrai que j'ai quand même pas trop de méthode, j'ai pas trop de technique et tout. Donc j'ai acheté 2 grosses bibles sur l'écriture du scénario, écrite par des Américains et tout. et donc, j'ai suivi ça et tout. Et l'an dernier, donc, j'ai écrit un nouveau roman que j'ai terminé et tout, en suivant justement leur conseil narratif sur les personnages, sur les antagonistes, sur les faux alliés. Et j'ai fini le roman et en fait, il est nul. Quoi. Enfin, moi, je le trouve nul. Donc, du coup, je ne l'ai pas envoyé. Voilà, et je suis reparti sur un autre roman et là, je suis revenu sur ma méthode et je m'éclate et je pense sincèrement qu'il est beaucoup mieux.
Alors, justement, pour terminer cette émission, une toute dernière question. Qu'est-ce qu'il y a en préparation pour vous, en ce moment ?
Alors, en préparation, je suis sur un nouveau roman, mais dont je ne peux pas trop parler encore, parce que j'en ai même pas parlé encore à mon éditeur, donc voilà. Okay. Mais on est encore une fois, comme dans Le Passager, sur une double temporalité, alors qui est un peu moins lointaine. Là, on remonte à 20 ans en arrière.
D'accord.
Voilà, donc, mais on est encore sur une enquête, sur des recherches familiales et une double temporalité. Pardon, et un double lieu aussi, puisque l'histoire se déroule en France et aux États-Unis.
D'accord. Et donc, avec ou sans antagoniste pour celui-ci ?
Ah là, il y en a un.
Ah.
Mais j'essaye un peu quand même de l'excuser. Enfin, pas l'excuser, mais j'aime pas non plus quand les personnages sont trop...
Oui, ils sont trop archétypaux, quoi.
Archétypaux, ouais. Voilà. Donc, je fais en sorte quand même qu'on essaie un peu de le comprendre, ce méchant.
Merci beaucoup. Merci Laurent Lagarde. Merci chères auditrices, chers auditeurs. Je suis enchantée de cette émission pleine de bonne humeur. On enchaîne les émissions pleines de joie en ce moment sur Divergence FM. Je vous dis à bientôt sur L'Épluche Livre.
L'Épluche Livre.
Alors vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire
Pas grand-chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strates, comme ça. et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter en fait les premières couches comme ça.
Puis ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange des cornichons, de la moutarde.